Alléluia. Quel plaisir d'être ici avec vous tous et vous toutes. Alléluia. Bote bandeko. Alléluia. Je remercie Pasteur Bando et Pasteur Gisèle pour me faire confiance avec ce pupitre. C'est un honneur d'être ici avec vous à Kinshasa. Vraiment, mon cœur se réjouit et nous avons eu une conférence et où le thème était d'être des choisis pour être des vases d'honneur. Et nous avons vu l'importance, comment Dieu veut utiliser chacun et chacune d'entre nous. Amen. Dieu veut que chacune, nous ayons un impact sur notre génération. Amen. Alors ce matin, j'aimerais continuer parce que j'ai parlé qu'en tant que vase d'honneur, Dieu nous purifie. Amen. Dieu nous renouvelle, mais aussi on a vu que Dieu veut nous remplir pour que l'on puisse se déverser avec sa puissance et son onction sur les autres, pour avoir cet impact, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, amen, pour délivrer les opprimés. C'était l'appel de Jésus et c'est notre appel. Mais ce matin, j'aimerais, mettez votre main sur votre cœur. Seigneur, je prie au nom de Jésus, Saint-Esprit, que tu nous donnes à chacun et chacune d'entre nous un esprit de sagesse, de révélation en ta connaissance, car tu es le seul qui est digne, Seigneur, de connaître. Tu es le seul qui est digne d'être adoré, aimé et écouté. Alors, nous voulons t'entendre ce matin. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, que nos cœurs puissent prendre la parole comme une semence de vie pour que nous puissions être transformés et te connaître et avancer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Vous avez la foi. Parce que très souvent, on nous dit, mais t'as pas la foi, ou t'as pas assez de foi, ou, amen. Et donc, je veux dire ce matin, non, vous avez la foi. Combien d'entre vous ce matin, vous avez reçu Jésus comme votre sauveur et Seigneur? Alléluia. Vous avez la foi, ça exige la foi pour accepter Jésus. Un Dieu que l'on ne peut pas voir, amen, un Dieu que l'on ne peut pas forcément toucher, et un Dieu que l'on ne peut pas automatiquement accéder au travers des cinq sens. Et la Bible dit dans le Pierre, l'apôtre nous dit que nous avons reçu la même foi que lui-même et que les autres disciples. Et nous avons la foi. Mais pourquoi est-ce que des fois, vous et moi, nous voulons marcher par la foi, n'est-ce pas? C'est notre désir de marcher par la foi, car sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Nous le savons. Mais pourquoi est-ce que des fois, notre foi ne semble pas agir? Pourquoi est-ce que des fois, on croit, mais on a l'impression qu'on ne voit pas de résultats, on n'a pas de percée, on ne voit pas de miracles, les choses ne se font pas. Et c'est vrai que souvent, les gens ont tendance à automatiquement assumer, ben, t'as pas la foi. Et moi, je veux dire, oui, tu as la foi. Répétez après moi, j'ai la foi. Mais pourquoi ma foi ne fonctionne pas? Et on va parler de cela ce matin. Vous voyez, il y a un passage dans Matthieu 17, et ce passage se retrouve dans trois autres évangiles. On le voit quand Jésus était avec Pierre, Jacques et Jean, ils sont montés sur la montagne, et vous vous rappelez, c'est là où Jésus a été glorifié. Amen, ils ont vu Élie, et ils ont vu Moïse. Mais pendant ce moment-là, où tous les quatre étaient avec Moïse et Élie, les autres disciples, les autres neuf disciples étaient en bas de la montagne et on leur a amené un petit garçon qui avait un démon. Un autre passage dit que ce petit garçon était épileptique. Un autre évangile dit qu'il était lunatique. Et bien sûr, ils ont essayé de chasser le démon, de guérir ce petit garçon, mais pour une raison ou une autre, ça n'a pas marché. Et alors là, Jésus redescend de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et il voit comme un petit groupe, un petit tumulte, et le papa de l'œil voit Jésus, il court vers lui, et il lui dit, j'ai amené mon petit garçon vers tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et bien sûr, plus tard, derrière les portes, cachés. Les disciples sont allés vers Jésus et ont dit, Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Cela se trouve dans Matthieu 17, verset 19. Et Jésus leur a répondu, il leur a dit, à cause de votre incrédulité. Alors on doit se poser la question, parce que la plupart des gens vont dire l'incrédulité, ça veut dire que vous n'avez pas du tout de foi. Peut-être des fois, mais moi je vous dis non. L'incrédulité n'est pas le manque de foi. Parce que rappelez-vous que le papa est allé vers Jésus, il lui dit j'ai amené mon petit garçon vers les disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Et il a continué en disant, viens à mon secours, aie compassion si tu peux faire quelque chose. Et Jésus l'a regardé et je peux m'imaginer qu'il avait comme un petit état d'étonnement en disant, si je peux, point d'interrogation, non, si tu peux croire, car rien n'est impossible à celui qui. Et on voit là que le papa a répondu, je crois, ou j'ai la foi, mais viens au secours de mon incrédulité. On voit là que dans la même phrase, pasteur Bondeau, il y a la parole foi, je crois, mais j'ai l'incrédulité. Alors je veux vous dire aujourd'hui que l'incrédulité n'est pas forcément un manque de foi. On peut avoir la foi et l'incrédulité. Il y en a d'autres qui disent oui, non, 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 non. L'incrédulité, c'est une petite foi. Une toute petite foi. Moi, je dis non. Parce que Matthieu 17, verset 20, Jésus leur a répondu dans ce même passage, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous parlerez à cette montagne, lui commandez de se ôter, de se jeter de là et elle vous obéira. Ma question est, un grain de moutarde, est-ce que c'est un grain de moutarde que je suis en train de porter? Non. Dans l'évangile de Luc, la Bible nous dit que le grain de moutarde est la graine la plus petite. Et pourtant, Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pourriez parler à une montagne, parler à un mur, et vous, il se déplacerait à votre commandement. Alors ce matin, j'aimerais vous montrer que l'incrédulité n'est ni un manque de foi, car le papa a dit, j'ai la foi, je crois, mais j'ai aussi l'incrédulité. Et l'incrédulité n'est pas un tout petit peu de foi, car Jésus a dit, si tu as la foi, comme un grain de moutarde. Alors, qu'est-ce que l'incrédulité? Voyez, dans le grec, je ne veux pas être dans tout le grec, mais dans le grec, quand on veut annuler une action, même la renverser, on ajoute le préfixe « a ». Si vous savez, la foi, c'est la parole « pistis ». Et dans le grec, incrédulité, c'est la parole « apistia ». Ça veut dire que l'incrédulité, c'est la foi qui a été arrêtée et annulée. L'exemple que l'on a voit où le parallèle en français, par exemple, si vous voulez faire quelque chose, par exemple, êtes-vous content, je me suis habillée ce matin. Vous vous êtes habillée ce matin. Mais si vous voulez annuler cela, même l'inverser, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous déshabiller. En français, le préfixe « dé » vient devant le mot pour l'arrêter, l'annuler, même l'inverser. Écoutez ce verset que l'on trouve dans Hébreux 3:12. Dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un mauvais cœur incrédule au point de se détourner de Dieu. » Là, l'auteur du livre des Hébreux nous montre que quand on a un cœur d'incrédulité, on se détourne. Notre foi s'inverse, annule, s'inverse et fait marche arrière, si vous me permettez de le dire ainsi. Alors on voit là que l'incrédulité n'est pas un manque de foi, parce que je vois souvent des gens qui croient. Le fait même qu'ils prient, le fait même qu'ils s'adressent à Dieu, le fait même qu'ils exercent autorité, le fait même qu'ils prient, qu'ils commandent au nom de Jésus, montre que quelque part ils croient. Mais serait-il possible peut-être que cette, que l'incrédulité vienne pour arrêter, annuler, même inverser votre foi? La foi se tourne vers Dieu, l'incrédulité se détourne et s'éloigne. Nous voyons un exemple majeur. Rappelez-vous, Pierre. Vous connaissez l'apôtre Pierre? On voit dans Matthieu 14, 29 qu'il était dans la barque avec les disciples et tout d'un coup, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Et Pierre qui... Moi, j'aime Pierre. Il a ce côté un peu audacieux. Celui qui ose aller casser le moule, façon de parler. Et Pierre regarde Jésus et dit, si c'est toi, appelle-moi. Et Jésus l'a appelé. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il est sorti de la barque, il a commencé à marcher. Question, avait-il la foi? Dieu a parlé, il a entendu, il a obéi. Moi, je sais pas d'après vous, mais moi, j'ai jamais marché sur l'eau, ou j'ai pas encore marché sur l'eau. Mais Pierre l'a fait, moi, ça me dit, Pierre avait la foi. Mais que s'est-il passé, mes amis? Alors que tout d'un coup, il voit le vent, il sent les vagues, il pense, il s'est passé quelque chose qui a fait que sa foi s'est arrêtée, s'est annulée. Pierre a coulé. Merci Seigneur, il a même pas eu besoin de nager. Jésus attendait la main et l'a fait sortir et l'a remis dans la barque. Donc on voit ici que l'incrédulité, parce que très souvent, quand on prie, ou qu'on demande, ou on exerce notre autorité, ou on impose la main sur le malade, ou on veut faire les œuvres de Jésus, ou on veut recevoir les bénédictions, et on ne voit pas, notre foi ne semble pas fonctionner. Et la plupart des gens vont vous montrer du doigt en disant, ah, t'as pas assez de foi, ou t'as pas de foi. Et moi je veux dire non, Jésus a dit, si tu as de la foi aussi petite qu'un grain de moutarde, tu peux parler à la montagne, se déplacera. Et on voit là que Pierre avait la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'incrédulité est venue pour attaquer sa foi et l'arrêter de fonctionner. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que on voit aussi un exemple. Moi, je ne sais pas d'après vous, mais moi, je veux voir Pasteur Bondeau. Je veux examiner Jésus. Je suis pas contente avec ce que les hommes me disent. Je veux voir qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce que Jésus dit. Et Jésus est mon exemple, pas l'homme. Jésus est mon exemple. Et j'ai vu quelque chose de puissant dans Marc 8. Dans Marc 8, il était à Bethsaïda. Et là, on lui a amené un aveugle. Et Jésus nous dit, dans Marc 8, versets 22 à 26, qu'il a pris l'homme par la main, et il l'a fait sortir de la ville. Puis, il lui a imposé les mains et il lui a dit, peux-tu voir? Il a dit, oui, je vois, mais je vois les hommes comme des arbres. Jésus a imposé la main sur lui et l'homme a été guéri. Et c'est intéressant que Jésus regarde cet homme et lui dit, maintenant, ne retourne pas dans la ville de Bethsaïda, ni ne parle à personne. Pourquoi est-ce que Jésus lui a défendu, maintenant qu'il avait reçu sa guérison, lui a défendu d'aller à Bethsaïde et de parler à quiconque? Pourquoi? Parce que la ville de Bethsaïda était remplie d'incrédulité. Comment le sais-tu, Audrey? Rappelez-vous ce que Jésus, il a prononcé des paroles sur Bethsaïda et Chorazin dans Luc 10, 13. Et Matthieu 11, 21, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, si les miracles qui étaient faits parmi vous avaient été faits à Sodome et Gomorre, ils se seraient repentis il y a bien longtemps et couverts de cendres. Qu'est-ce que Jésus nous montre? Que la ville de Bethsaïda était remplie d'incrédulité. Et que afin de pouvoir guérir cet aveugle, Jésus a dû faire sortir cet homme de cette atmosphère d'incrédulité, et maintenant qu'il était guéri, il lui a parlé, il lui a commandé de ne pas retourner dans la ville. Pourquoi? Ça aurait le potentiel de lui faire perdre sa guérison. Je me rappelle quand le Seigneur m'a réveillé à 1h du matin, 2-3 jours d'affilée, que le Seigneur m'a parlé, il m'a révélé que j'avais le cancer dans mon corps, il m'a donné des instructions. La joie du Seigneur sera ta force. Et puis il m'a dit, ne le dis à personne, sauf à 5 personnes qui croient comme toi. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que vous voyez, la tendance qu'on peut avoir, si on, tout d'un coup, on entend qu'on a un cancer, on veut commencer une chaîne de prière et avoir 1000 personnes qui prient pour nous. Je préfère avoir 2 personnes qui prient pour moi dans la foi que 1000 personnes qui prient dans l'incrédulité. Et plus tard, au cours des années, alors que le Seigneur a commencé à m'enseigner, m'ouvrir la parole, j'ai compris. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il a fait sortir cet homme de cette atmosphère d'incrédulité afin de pouvoir le guérir. Oui, Jésus, le Fils de Dieu. Alors si Jésus avait besoin d'être hors d'une atmosphère d'incrédulité afin de pouvoir guérir, que pensez-vous que vous et moi, nous ayons besoin de nous entourer d'une atmosphère de foi, de gens de foi, pasteur Bondo, qui voient l'invisible, des gens qui sont dans la foi. Alléluia. C'est pour cela, vous rappelez, quand il a voulu ressusciter une petite fille, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé Pierre, Jacques et Jean, les parents, et il a fait sortir tout le monde. Allez, hop! Pourquoi? Parce que Jésus connaissait ce principe. Qu'afin que même lui, le Fils de Dieu, afin de pouvoir marcher par la foi et accomplir des miracles, souvent une atmosphère d'incrédulité pouvait venir attaquer sa foi, l'annuler et empêcher la manifestation dans la vie des gens. Alléluia! Mais quelque chose d'intéressant, alors que j'étudie ce passage au travers des 3 différents évangiles, c'est Luc 9, Marc 9 et Matthieu 17, j'aime bien voir et comparer les différents récits des différents témoins. Marc a vu quelque chose, Matthieu a vu autre chose, Luc a vu quelque chose de différent. Et il y a quelque chose d'intéressant. Quand les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu guérir ce petit garçon? Et Jésus a dit, à cause de votre incrédulité. Cependant, il a rajouté, cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a certaines traductions qui ont rajouté une parole qui n'est pas dans les textes originaux. La parole démon. Ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Moi je dis, attends, j'ai cru que Jésus nous a dit dans Luc 19 et dans Luc 9, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du diable et rien ne vous nuira. Et rappelez-vous quelque chose, les disciples, les 9 disciples qui étaient en bas de la montagne, venaient juste de revenir de la mission où ils avaient été envoyés 2 par 2. Et ils étaient rentrés épatés, épanouis, ébahis en disant, Seigneur, même les démons sont assujettis à ton nom. Ils avaient la foi. Vous vous rappelez la première fois peut-être où vous avez imposé les mains sur un malade et il était guéri. Vous vous rappelez de ce moment-là? Wow, votre foi est devenue vigoureuse. Vous étiez là, donnez-moi les morts, je suis prêt. C'était le cas des disciples. Mais là, pourtant, dans ce cas-là, ils n'ont pas pu chasser le démon et guérir le petit garçon. Et Jésus leur a dit, à cause de votre incrédulité, mais cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Mes amis, il n'y a pas un genre de démon qui est plus puissant que le nom de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 28, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas un genre de démon que le nom de Jésus ne peut pas assujettir. Alors de quoi est-ce que ça parle? Jésus voulait dire, ce genre d'incrédulité ne sortira que par le jeûne et la prière. Ça nous montre un détail important. Il y a plusieurs genres d'incrédulité. Il y a plusieurs genres de forces négatives qui viennent attaquer votre foi pour l'arrêter de fonctionner. Voyez par exemple ce pupitre. Si moi par exemple je m'appelle foi, mais que peut-être pourrais-tu venir mon frère? Et que mon frère il est là, désolé, tu t'appelles incrédulité. Et il est là, et moi je suis la foi. Et la foi, la Bible nous dit ça, bouge les montagnes. Ah, la foi peut bouger les montagnes. Mais s'il y a de l'incrédulité qui attaque la foi, et que tous les deux on pousse, qu'est-ce qui se passe? Le pupitre ne va nulle part. Voyez, merci mon frère. Cette force d'incrédulité, et Jésus a dit cette sorte d'incrédulité que vous aviez face à ce petit garçon, ne va sortir que par le jeûne et la prière. De quoi est-ce que Jésus parle? Ce genre d'incrédulité. Regardons la situation. Regardons exactement ce qui s'est passé. Avez-vous déjà vu une personne qui a une crise d'épilepsie? Je me rappelle, j'étais avec Tanya Taylor quand notre petite cuisinière tout d'un coup a eu une crise d'épilepsie. C'est impressionnant. Et la Bible nous dit dans Marc 9, alléluia, il nous dit dans Marc 9, versets 18 et 20, en quelques lieux que ce démon saisit ce petit garçon, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié les disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Et Jésus a répondu, race incrédule, combien de temps vais-je devoir être avec vous? Combien de temps vais-je devoir vous supporter? En d'autres mots, Jésus s'attendait à ce que les disciples chassent le démon et guérissent le petit garçon. Et vous avez remarqué, Jésus a dit, race incrédule. Les disciples avaient la foi. Ils étaient revenus de la mission, ébahis que tous les démons étaient assujettis au nom de Jésus. Mais là, devant ce petit garçon qui a une crise d'épilepsie, une manifestation physique qui peut impressionner, intimider, déstabiliser, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Les disciples avaient la foi, mais il y avait aussi de l'incrédulité qui est venue pour attaquer leur foi. Et de quel genre d'incrédulité ici nous parlons? L'incrédulité qui vient au travers des cinq sens. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez dans ce monde naturel a le potentiel de déstabiliser votre foi. Vous pouvez avoir la foi, marcher par la foi, mais la Bible nous appelle de marcher par la foi et non par la vue ou par les cinq sens. Pourquoi? Parce que les cinq sens peuvent devenir une force d'incrédulité naturelle qui va venir attaquer votre foi pour l'arrêter, la déstabiliser et vous faire faire marche arrière. Ah. Et pourquoi Jésus a dit, mais cette sorte d'incrédulité ne sortira que par le jeûne et la prière? Pourquoi? Pourquoi jeûnons-nous? Pourquoi jeûnons-nous et prions-nous? Pour mettre de la pression sur Satan? Ah non, Satan a déjà été vaincu. Il a déjà été dépouillé, mis sous les pieds. Mais qui a besoin de changer? Le diable a déjà été vaincu. Chose faite. Mais notre chair, ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce que l'on entend dans le naturel, si nous cédons aux cinq sens, a le potentiel d'arrêter, même d'annuler votre foi. Et Jésus dit, par le jeûne et la prière, vous allez pouvoir vaincre cette genre d'incrédulité qui vient au travers des cinq sens. Pourquoi le jeûne? Parce que quand vous jeûnez, rappelez-vous, j'en parlais avec mon assistante hier, quand on jeûne, qu'est-ce qui se passe? Quand on jeûne, on met notre chair, on lui dit, tais-toi, soumets-toi à la volonté de Dieu. Chair, mets-toi à l'écart. Et vous savez, vous décidez peut-être de jeûner un repas et tout d'un coup, votre chair se relève. Ah, je vais mourir. Qu'est-ce que vous devez faire? Chair, tais-toi. Si tu ne t'aimes pas, chair, je vais jeûner deux repas. Puis la chair, je vais mourir. Si tu ne t'aimes pas, chair, je vais jeûner trois jours. Tôt ou tard, votre chair va se taire. Et en priant, vous devenez tout d'un coup moins sensible à la chair et plus sensible à l'esprit pour pouvoir entendre ce que Dieu dit, pour pouvoir agir et discerner les choses qui sont en face de vous, pour pouvoir entendre la foi, la voix de Dieu, pour pouvoir vaincre par la foi, souvent on doit éliminer ce genre d'incrédulité qui vient au travers des cinq sens. Ce que vous entendez chez le docteur, le diagnostic, ce que vous ressentez dans votre corps, les symptômes, ce que vous voyez au travers du miroir, a le potentiel de vous déstabiliser et d'amener ce genre d'incrédulité qui annule votre foi et qui fait que tout d'un coup, vous reculez en disant « Ouais, ben, ma foi ne marche pas, je crois que ça va pas, j'ai pas tout à fait reçu, c'est peut-être pas la volonté de Dieu. » Non, la guérison est la volonté de Dieu. Et quel est l'antidote alors pour ce genre d'incrédulité, on vient de voir? Le jeûne et la prière. C'est ce qui va nous permettre d'être plus sensibles à la voix de Dieu et moins dominés par les cinq sens. Mais bien sûr, Jésus a dit ce genre d'incrédulité qui, pour moi, me révèle qu'il y a différentes sortes d'incrédulité. On vient de voir les cinq sens, mais il y a aussi la peur. La peur. Vous vous rappelez quand Jésus était sur la route et que Jaïrus est venu vers lui et lui a dit « J'ai ma petite fille qui est malade, s'il te plaît, viens, viens pour chez moi pour la guérir. » Et alors qu'il est en route vers la maison de Jaïrus, une femme a une part de sang et elle a entendu, elle a la foi. Et peu importe les obstacles, peu importe un manque de force, peu importe ce qui était devant elle, elle a persisté, elle a poussé, elle a dit non, je crois, si seulement je touche le bord de son manteau, je serai guérie. Sa foi a parlé, elle a touché Jésus, mais pendant ce temps-là, elle a été guérie. Et bien sûr, on sait et on se rappelle que Jésus s'est arrêté vraiment pour ancrer le témoignage de cette femme. Il a voulu qu'elle se révèle, qu'elle vienne de l'avant. Et il a dit, femme, ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit, ma puissance, ta foi t'a guéri. Mais tout d'un coup, Jaïrus est là à côté. Je peux m'imaginer qu'il s'impatiente. Jésus, mais alors grouille-toi un petit peu là, j'ai ma fille. On peut se dépêcher là? Et tout d'un coup, il y a un serviteur qui vient, on dit, ne dérange plus le maître. Ta fille est morte. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il s'est tourné immédiatement vers Jésus. Il a dit, crois, ne doute pas, crois seulement. Qu'est-ce que Jésus lui dit? N'aie pas l'incrédulité, crois seulement. Ne permets pas à l'incrédulité de rentrer. Sois dans la foi seulement. Ça nous montre qu'on peut avoir la peur et la foi en même temps. Mais cette peur, qui est une sorte d'incrédulité, qui va venir pour attaquer votre foi, pour l'annuler, même pour l'inverser. Et bien sûr, nous connaissons la suite de l'histoire, où Jésus est allé dans la maison de Jaïrus, il a fait sortir tout le monde, parce que apparemment il y avait de l'incrédulité dans l'atmosphère, les gens autour ricanaient une seconde, et après, hop, ils pleurent, ils ricanent, ils pleurent, ils rient. Jésus a dit, ouais, tout le monde dehors. Et il est rentré, et il a ressuscité cette petite fille. Et on voit là que Jaïrus, la foi a essayé de venir, de rentrer dans son cœur. Mais Jésus l'a averti, ne permets pas à la peur de venir. Crois seulement. Et on voit par exemple, alléluia, qu'au travers de la Bible, Abraham, Sarah, la Bible, par exemple, Abraham et Sarah disent qu'ils n'ont pas douté, mais ils ont été fortifiés dans la foi. Hébreux 11 dit que Sarah a considéré Dieu fidèle. Alors qu'elle était tentée de douter, vous rendez compte, des années, ça a pris, elle était stérile, elle n'avait jamais eu d'enfant quand elle avait 15 ans, maintenant elle en a quoi, 90? Et là, comment est-elle restée dans la foi? Elle a continuellement chassé la force d'incrédulité qui était la peur. Comment? Elle a considéré Dieu fidèle. Je peux même m'imaginer ce que Sarah a fait. Considérer Dieu fidèle, ça ressemble à quoi? Alors qu'elle était tentée de douter, alors qu'elle était tentée d'avoir peur, alors qu'elle était tentée que ça ne se ferait pas, elle s'est arrêtée. Elle a dit, Sarah, rappelle-toi. Comment, alors que tu es sorti de la terre de Ur, comment Dieu est venu? Il a pourvu pour tous mes besoins. Rappelle-toi, Sarah, comment les ennemis ont voulu t'attaquer, comment Dieu est venu à ta défense et t'a défendu. Rappelle-toi, elle a eu un petit speech. Elle s'est parlé à elle-même. Rappelle-toi, Sarah, quand tu as atterri dans le harem du Pharaon, comment Dieu est venu d'une manière surnaturelle. Et en se rappelant la fidélité de Dieu, elle a chassé la peur. Et sa foi a été fortifiée. Et elle a chassé la peur. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6. Ne vous souciez de rien, n'ayez peur de rien. Regardez les moineaux du ciel. Votre Père les nourrit. Regardez les lys des champs. Votre Père les habille bien mieux que Salomon dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que Jésus disait aux disciples? Quand vous vous sentez avoir la peur qui veut s'infiltrer, la peur qui veut arrêter votre foi, cette peur qui veut ralentir votre confiance en moi, commencez à réfléchir, à regarder la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Et la Bible dit que l'amour parfait chasse, bannit la peur. Ce genre d'incrédulité qu'est la peur, l'antidote, c'est de méditer l'amour et la fidélité de Dieu. J'ai une amie à moi au Sénégal, atteinte du cancer. Et tout d'un coup, la panique s'installe, elle a peur. Elle se dit, je vais mourir, j'ai des enfants, j'ai mon mari. Et je par l'inspiration du Saint-Esprit, il me dit, dis-lui de méditer l'amour de Dieu, de méditer la fidélité de Dieu. Et elle a fait ça, elle a pris tous les versets qui parlent de l'amour de Dieu, tous les versets qui parlent de la fidélité de Dieu. Elle a médité. Jusqu'à ce que cette révélation rentre dans son cœur et elle a marché dans une paix surnaturelle et guérie du cancer. Alléluia. Non seulement nous avons vu deux sortes d'incrédulité, cette incrédulité naturelle des cinq sens, nous avons vu la peur est une sorte d'incrédulité. Savez-vous que l'offense est aussi une sorte d'incrédulité ? Vous vous rappelez, quand Jésus était à Nazareth, Marc 6, il était le homeboy. Il était là à la maison, dans la synagogue où il avait grandi, parmi les gens avec qui il avait grandi, travaillé, côtoyé. Et bien sûr, je suis persuadée que son cœur, son désir, c'était de faire des miracles. Parce qu'il avait dit après tout dans Luc 4, l'onction du Seigneur est sur moi pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour délivrer les opprimés. Et là, la Bible dit que les gens dans son village, dans la synagogue, l'ont regardé, ont dit, mais pour qui il se prend? On l'a vu grandir avec nous. Tu te rappelles, c'est lui qui a construit tes meubles. Ben oui, moi je me rappelle, il a construit mon toit. Et maintenant il dit, je suis oint, je suis le fils de, je suis le Messie. Mais pour qui se prend-il? Et la Bible dit, dans le verset 5 et 6, que Jésus n'a pas pu la faire aucun miracle à cause de leur incrédulité. Quel genre d'incrédulité nous parlons? Cette incrédulité qui est une force négative, l'offense. L'offense est une force négative qui veut rentrer dans votre cœur, construire des petites racines pour annuler votre foi en Dieu et empêcher les bénédictions, les guérisons de venir. Parce que la vérité est que Dieu nous a déjà guéris. Éphésiens 1:3, nous avons été bénis en Christ avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Cela est fait. Jésus a accompli l'œuvre sur la croix. Il a vaincu l'ennemi. Il nous a donné les clés d'autorité. Il nous a donné un héritage en Christ. Et la plupart des gens pensent que ils viennent vers Dieu, ils prient, ils sollicitent Dieu et que Dieu l'est assis au trône en disant, est-ce que je vais te le donner? Est-ce que je vais te guérir aujourd'hui? Non, t'as de l'offense dans ton cœur, je vais pas te guérir. Non! Voilà la vérité, c'est que Dieu nous a déjà guéris. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Mais il se passe quelque chose. 1 Jean 1:21. Si ton cœur te condamne, ou si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance, de la foi envers Dieu, et tout ce que tu demandes, tu le reçois. Mais si vous avez de l'offense, ce genre d'incrédulité, cette offense dans votre cœur, qu'est-ce qui va se passer? Votre cœur, votre propre cœur va vous condamner, pas Dieu. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ pour ceux qui sont en Christ. C'est ton propre cœur qui va court-circuiter ta foi. Cette offense va faire en sorte que ta foi n'arrive pas à recevoir. Car Jésus a dit dans Marc 11, 23, ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est déjà fait, c'est déjà donné, c'est déjà accordé. Mais c'est au travers de notre foi que l'on reçoit la guérison, les bénédictions, qu'on relâche la puissance de Dieu. Mais si votre cœur vous condamne parce que votre cœur a été offensé, votre cœur n'a pas cette paix, n'a pas cette assurance, n'a pas cette confiance, votre foi ne va pas pouvoir recevoir. Je me rappelle, j'étais en Colombie et j'enseignais dans une église un peu comme celle-là. Et tout d'un coup, au début du culte, je vois une dame qui s'avance avec un déambulateur. Vous savez ce que c'est un bref, c'est comme quelque chose que l'on utilise quand on est dans la douleur, qu'on ne peut pas marcher. Ça a des petits trous et puis on pousse, puis on marche. Et je la vois s'avancer dans la douleur. Elle faisait un petit pas, ses doigts étaient recroquevillés, son dos était courbé et elle était dans la douleur, on le voyait, et puis elle poussait. Et ce soir-là, vraiment, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de prêcher un message que j'appelle « N'agis pas comme un singe ». C'est toute une histoire, tout un enseignement sur l'offense et comment en être libéré. Et le danger, parce que l'offense est comme un piège que l'ennemi utilise pour mettre votre foi sur l'étagère, pour vous handicaper, vous arrêter de croire, de recevoir, d'agir. Et cette femme s'avance dans la douleur. Elle avait eu depuis toute jeune l'arthrite. Et ce soir-là, j'ai prêché ce message, comment reconnaître, être libre de l'offense. À la fin du culte, cette femme s'avance en courant devant l'autel, en courant. Non seulement a-t-elle été complètement guérie, mais elle a reçu le Saint-Esprit. Attendez, j'étais curieuse, parce que personne n'avait prié pour elle. Personne n'avait imposé les mains sur elle. Je n'avais pas encore commencé la prière. Elle est venue dès que j'ai fermé ma Bible, elle est venue en courant. Et j'étais curieuse, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, quand j'étais toute jeune, j'étais jeune mariée avec des enfants en bas âge, mon mari m'a quittée pour partir avec une autre femme. Il m'a complètement abandonnée. J'ai dû me débrouiller toute seule. Et je me suis dit en moi-même, je ne lui pardonnerai jamais. Elle me dit, au cours des années, j'ai gardé une rancœur contre cet homme. Et je me suis dit, non, je ne lui pardonne pas. Et au cours des années, elle a commencé à développer de la douleur, de l'arthrite, de l'arthrose. Et elle a prié. Les gens ont imposé les mains sur elle. Elle a jeûné, elle a prié tout ce que dans le naturel, on se dit, on peut faire. Et pas de résultat. Et là, toute seule, assise là où vous êtes, quand elle a entendu ce message, qu'est-ce qu'elle a fait? Sans que personne ne le lui dise, sans que personne n'impose les mains sur elle, elle a choisi de pardonner son mari en quelques secondes. Et quand elle l'a fait, quelque chose s'est passé. L'onction du Saint-Esprit est descendue sur elle, comme du miel, l'a remplie, et tout d'un coup, elle s'est aperçue, ses doigts sont redressés. La douleur était partie, et c'est là qu'elle est venue en courant. Pourquoi? Parce que l'offense est un genre d'incrédulité qui non seulement empêchait Jésus de faire des miracles, mais qui peut vous empêcher aussi de faire des miracles ou de recevoir votre guérison. Et quel est l'antidote? Le pardon. On doit pardonner, parce que des fois on se dit que quand si on refuse de pardonner quelqu'un, on les fait souffrir. Hein, n'est-ce pas? On dit, je leur pardonnerai jamais. Comme si eux, ça va les déranger. Mais ils savent pas. Ils continuent leur vie, ils sont heureux, ils font leur train-train. Mais c'est nous qui sommes affectés par l'offense. C'est comme quelqu'un me dit « je ne pardonnerai jamais ». C'est comme si quelque part ils pensent qu'ils peuvent boire un flacon de poison et regarder l'autre personne mourir. Non, Qui c'est qui va mourir? Celui qui boit. Et donc, l'antidote de ce genre d'incrédulité, c'est de choisir de pardonner. C'est pour ça, vous rappelez Marc 11, 23. On voit Jésus a dit, quiconque parle à la montagne, exerce son autorité. Commande-lui de se ôter, tu es dans la mer, ne doute pas dans ton cœur, mais crois que ce que dit se fera. Et quand tu pries, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. On connaît ces deux versets. C'est les deux versets que Kenneth Hagin a écrits. C'était une blague. Mais après Marc 11, 23 et 24, que vient-il Marc 11, 25? Et si tu as quoi que ce soit dans ton cœur, pardonne. Parce que l'offense a le potentiel d'arrêter ton autorité, d'arrêter les bénédictions où tu n'arrives pas à recevoir ce genre d'incrédulité. Amen. Et finalement, il y a un dernier. Au travers de mes études, j'ai découvert un autre genre d'incrédulité. Le genre d'incrédulité dont Jésus nous parle dans Marc 7, dans le verset, je crois que c'est 13 et 14, il dit... Il s'adressait aux pharisiens et il leur dit, vous annulez la parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'est-ce que ça produit? La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole produit la foi. Mais là, Jésus accusait les pharisiens et il leur disait, vous annulez la parole de Dieu ou la foi par vos traditions que vous vous êtes transmises les uns et les autres. Pour ça, Jésus a dit, prenez garde du levain des pharisiens, les traditions des hommes, les faux enseignements, tout ce qui est que des fois l'Église, non pas cette Église, j'en suis sûr, mais l'Église en général, très souvent, enseigne des traditions, des paroles qu'ils disent, ça vient de Dieu, mais c'est des paroles et des enseignements de l'homme. Et ces enseignements de l'homme ont le potentiel d'arrêter votre foi. Il dit, vous annulez la parole de Dieu, ou la puissance qu'amène la parole de Dieu, par vos traditions que vous vous transférez de génération en génération. Je me rappelle. Et je vais clôturer. J'étais en Inde. Vous voyez, il y a des traditions comme les chars de Paul dans la chair, les souffrances de Job, où Dieu, c'est lui qui a rendu un homme aveugle pour venir et le guérir. Tout un tas de choses, et c'est des versets, véritablement, que les gens prennent et n'étudient pas correctement. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée, tu dois étudier la parole, tu dois séparer la parole d'une manière correcte. Parce que des fois, les gens prient pour les malades, il n'y a rien qui se passe, et de là, de leur défaite, de leur échec, ils construisent une doctrine. Oh, c'est pas la volonté de Dieu de guérir. Et alors là, en Inde, j'avais enseigné sur la guérison divine. Et bien sûr, j'avais enseigné expliqué les différentes doctrines qui empêchaient aux gens de recevoir la guérison. Les souffrances de Job. Vous pouvez trouver ça sur mon site internet. Les chars de Paul dans la chair. L'aveugle né aveugle. Et toute une sorte de doctrine. Et là, je me rappelle voir un homme habillé tout en blanc qui, apparemment, il était pasteur. Et il me regardait avec intensité. Il me quittait pas. Il écoutait. Et à la fin de ces leçons, à la fin de la semaine, il s'avance vers moi pour me dire, Audrey, je voudrais témoigner avec toi. Il dit, pendant des années, j'ai souffert de maladies. Et à chaque fois que je voulais prier, je jeûnais, je priais, je demandais à Dieu de me guérir, je voulais utiliser ma foi. À chaque fois, j'entendais cette petite voix qui disait, ah mais non, toi, tu es comme Paul. Dieu a permis cette maladie pour te garder dans l'humilité. Et Dieu ne veut pas te guérir, il veut t'apprendre une leçon. Et alors qu'il m'a entendu, il a entendu l'enseignement, où j'ai utilisé des règles d'interprétation. C'était pas du par hasard, c'était, j'utilisais les règles d'interprétation, le contexte immédiat, le contexte de, du livre, des paroles dans l'ancien, dans les différentes deux testaments qui expliquaient le point de référence. Parce que Paul, un pharisien qui était un pharisien des pharisiens, utilisait souvent des points de référence dans l'Ancien Testament. Et alors que j'ai expliqué ce qu'était véritablement les chars de Paul dans la chair, que ce n'était pas une maladie, mais que c'était un démon, que le diable avait envoyé à Paul pour l'arrêter de prêcher l'évangile partout où il allait. Cet homme, sans que personne ne prie pour lui, sans que personne n'impose la main sur lui, quand il s'est débarrassé de ce mensonge, de ce genre d'incrédulité qui était une fausse doctrine, sa foi a fonctionné. Il a été immédiatement guéri. Personne n'a prié pour lui. Sa foi a fonctionné quand il s'est débarrassé de ce genre d'incrédulité qui est venu au travers de mauvais enseignements. C'est pour ça que l'école Réma, pasteur Ken et Tania, leurs enseignants enseignent la parole. Alléluia. Et nous enseignent comment étudier la parole en appliquant ses règles d'interprétation. Je suis persuadée que pasteur Bondo, de même, utilise ses règles d'interprétation et n'enseigne pas à la légère des traditions des hommes. Amen. Alors sans plus tarder, je vous bénis au nom de Jésus. Et je veux vous encourager en disant, vous avez la foi, mais débarrassez-vous de ces sortes d'incrédulité. Amen.